Donc, premier cours, chapitre 1, quelque sorte. Si vous êtes adepte de plan, je vous précise tout de suite, il n'y aura pas des grands 1, petit 1, petit 2. Hein. Donc, je suis sûr que vous réussirez à vous en sortir quand même. Chapitre 1, de la pensée naturelle à la pensée sociale. Dans ce cours aujourd'hui, pour cette première séance, jusqu'à 17h45, je vais vous présenter 5 points. On va d'abord faire un petit rappel sur la logique formelle. Rappelez-vous vos cours de psychocognitive en première année ou rappelez-vous les cours de philosophie en terminale. Donc, petit rappel sur la logique formelle pour que nous partions tous avec la même base. Pardon, j'ai été un peu rapide. Deuxième partie aujourd'hui, je ferai un lien entre la science et le sens commun pour vous expliquer comment cette logique formelle qui s'inscrit dans un discours scientifique s'oppose, d'une certaine manière, au sens commun. Troisième point, nous verrons la pensée naturelle. Puis j'évoquerai, j'en viendrai à la pensée sociale. Pardon. Et nous terminerons ce cours par la présentation du modèle de l'architecture de la pensée sociale que l'on doit à Rouquette en 1996. Donc je vous propose que nous rentrions tout de suite dans le vif du sujet avec un point extrêmement intéressant. Grand 1, la logique formelle. La logique formelle, normalement, vous en avez fait dans vos premières années universitaires, souvent en psychologie cognitive. On vous a expliqué ce qu'était la logique formelle. Quelqu'un peut me donner une définition de la logique ? Ok, soyez pas intimidés, même si vous êtes enregistrés. L'objectif de la logique formelle, il est extrêmement simple. Je le simplifie, hein, s'il y a des spécialistes de logique formelle dans la salle, ne me tombez pas dessus tout de suite. L'objectif de la logique formelle, c'est de déterminer si un raisonnement est valide ou non. Est-ce qu'un raisonnement est valide ou non ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Et je vais vous demander, attention, exercice pédagogique très important, je vais vous demander de me dire si le raisonnement que je vous présente est valide ou non. Alors, partons de la phrase suivante. Si mon réveil ne sonne pas, je suis en retard en cours. D'accord ? Phrase de départ. À partir de cette phrase, je vais vous donner deux exemples de raisonnement. Et je vais vous demander lorsque ce raisonnement est valide et lorsqu'il ne l'est pas. Premier exemple de raisonnement. Mon réveil ne sonne pas, donc je suis en retard en cours. Au passage, ce symbole est le symbole de la conséquence en logique, le donc. Mon réveil ne sonne pas, je suis en retard en cours. Raisonnement valide ou non ? Vous avez une chance sur deux, mais c'est un raisonnement valide. Par rapport à ma phrase du départ, si mon réveil ne sonne pas, je suis en retard en cours, lorsque je vous présente le raisonnement suivant, mon réveil ne sonne pas, donc je suis en retard en cours, nous avons à faire un raisonnement valide d'un point de vue logique. D'un point de vue logique. Je sais ce qui vous trouble. Ce qui vous trouble, c'est que je vous donne un exemple pédagogique comme ça, sorti de mon imagination, et vous n'avez jamais été confronté à cet exemple dans la vie réelle. Vous n'avez jamais été en retard. Alors je vais vous demander un niveau d'abstraction. Supposez, imaginez, faites le raisonnement, la supposition que vous pourriez être en retard. D'accord ? C'est un exemple pédagogique, je fais ce que je peux, d'accord ? Donc, ça c'est un raisonnement valide. Prenons un autre exemple. Je suis en retard en cours, donc mon réveil n'a pas sonné. Est-ce un raisonnement valide ou non ? Ok, là vous vous dites, il nous a fait le coup la première fois, c'est oui, c'est un prof, il va faire simple dans ses exemples, la seconde fois c'est non. Vous avez raison, mais vous avez encore plus raison parce que d'un point de vue logique, de logique formelle, le raisonnement ici n'est pas valide. Pourquoi ? Je suis en retard en cours. Ben oui, mais peut-être parce que il y avait un problème dans le métro. Peut-être parce que j'ai rencontré une charmante demoiselle ou un charmant jeune homme et que vous avez discuté avec lui ou avec elle et que, mince, je suis en retard. Peut-être parce que vous n'aviez vraiment pas envie de venir, mais que c'est un camarade qui vous a dit, bon, allez, maintenant, tu viens. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer votre retard en cours. Par conséquent, entendez-moi bien, à un niveau de logique formelle, ce raisonnement n'est pas valide. Pourquoi je vous embête avec de la logique formelle pour commencer ? Cette logique formelle, c'est celle que vous connaissez parfaitement bien normalement, parce que c'est celle de la démonstration de la pensée mathématique. C'est la logique de la démonstration. C'est celle que vous avez appris depuis que vous êtes tout petit à l'école. C'est celle que l'on vous enseigne. Allez, je vais vous poser une autre question, attention, encore plus dure. Écoutez, voilà, vous noterez la diapo après. 2 fois x, ne faites pas honte, hein. 2 fois x égale 6. X égale... Et on n'a pas répété, hein. Enfin, ou alors vos camarades avant sont sortis, vous ont dit, fais gaffe, la première question c'est 3, la première question c'est 3. 2 fois x égale 6 divisé par 2 égale 3. C'est la pensée mathématique, ce que vous avez appris à l'école. Rappelez-vous vos cours de maths. Rappelez-vous au collège. Vous rentriez dans la salle avec le prof de maths. Est-ce qu'il y avait sur les murs des posters de publicité du type x égale 3, c'est le plus fort, crois en x. Du type l'hypoténuse, c'est la seule voie, grâce à ça, tu peux t'en sortir. Du type le théorème de Pythagore, crois en toi, crois en son théorème. Vous avez déjà vu ça? Non? Pourquoi? Parce que votre prof de mathématiques n'était pas là pour vous persuader. C'était de la logique de la démonstration. Et comme je le note ici, la démonstration est un ensemble de propositions qui ne dépendent ni de ceux qui les produisent, ni des circonstances de leur production. Vous n'avez jamais vu votre prof de maths danser sur la table pour vous dire « Mais si, racine carrée de x, ça veut dire ça !» Non, il vous le disait, vous l'appreniez. Et la conséquence, examen, 2 fois x égale 6, x égale 7, poum, 0, tu recommences. Même si vous n'aviez pas compris, ce n'est pas grave, il faut juste apprendre, on fait une division. Donc la logique de la démonstration ne doit pas être persuasive, mais elle doit être valide. Ça, c'est le discours scientifique que vous connaissez depuis votre enfance. C'est le discours de la science, ce qui nous amène, grand 2, au point suivant, science et sens commun. Je vais essayer de revenir sur ce discours scientifique que l'on vous apprend depuis que vous êtes tout petit, que vous essayez d'intérioriser, que vos enseignants essayent de vous faire intérioriser, plus ou moins gentiment. Alors, d'un côté, on a quoi? D'un côté, on a un discours scientifique. C'est le discours mathématique, c'est le discours de la physique. Et puis, de l'autre côté, on a ce que l'on va appeler un discours de sens commun. C'est quoi le discours de sens commun? C'est les petits bavardages qui n'ont aucun intérêt. C'est ce que vous étiez en train de faire lorsqu'il y avait la musique tout à l'heure. Le cours n'avait pas commencé, mais on est quand même dans l'enceinte de l'université, on est assis, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On parle à notre voisin ou à notre voisine. De quoi? De la musique. Tiens, c'est sympa, ça je connais, c'est quoi? Non, mais je sais pas, j'ai vu un concert. Ah, je les ai vus en concert, ils sont super cool. Ou alors de ce que vous avez regardé à la télé hier soir. Eh, t'as vu? Non, mais tu te rends compte? Ah, moi, j'y crois pas. Mais attends, j'attends la saison 2 parce que je suis pas sûr. Ce sont toutes ces petites discussions totalement inintéressantes, pardonnez-moi. Ce sont ces discussions auxquelles le prof va mettre fin lorsqu'il va faire « Chut, s'il vous plaît, on commence ». Là, le prof interrompt des discussions de sens commun. Ces discussions de sens commun, Moscovici et Houston, en 1984, opposent ce qu'ils appellent une épistémologie de type scientifique et mathématiques, la physique, je l'ai déjà dit, a une épistémologie qu'il qualifie de populaire. Celle qui renvoie aux mythes, aux rumeurs, aux petites histoires, aux « il paraît que », aux « on m'a dit », à tous ces petits éléments totalement insignifiants de la vie de tous les jours. Durkheim, au XIXe siècle, lorsqu'il explique les règles de la méthode sociologique, va mettre en garde le sociologue contre ce sens commun. Il va expliquer que le sociologue doit avoir une démarche scientifique et qu'il doit écarter absolument toute pensée de sens commun, c'est-à-dire tout discours qui se satisfait à lui-même. Mais est-ce que le sens commun n'est qu'un discours qui se satisfait à lui-même? Est-ce que le sens commun, ce n'est rien? Est-ce que le sens commun, c'est ces trucs insignifiants dont j'ai parlé il y a quelques instants? Vous comprenez bien que si je vous pose la question, c'est pour répondre par la négative. Sinon, on arrête le cours et on a gagné plein de temps. En fait, le sens commun, Ce n'est pas simplement une collection de savoirs communs, mais c'est un système de connaissances. C'est-à-dire un ensemble de règles d'appréhension du monde, de compréhension du monde, de reconstruction du monde, d'administration de la preuve, d'appel à l'évidence et de rationalisation de l'action. Alors là, vous ne vous rendiez pas compte, il y a un quart d'heure, que le petit bavardage que vous faisiez à propos de l'émission de télé d'hier soir ou à propos de la musique qui était diffusée correspondait, je cite, à un système de connaissances. Ensemble de règles d'appréhension du monde, d'administration de la preuve, d'appel à l'évidence et de rationalisation de l'action. Eh bien si, c'est ce que justement je veux vous montrer. Ces choses insignifiantes dont il était question, en réalité méritent toute notre attention. Méritent l'attention du psychologue social, méritent l'attention du chercheur en sciences humaines et en sciences sociales. Discours scientifique d'un côté, discours de sens commun de l'autre. J'ai pris l'exemple du professeur de mathématiques. Mais rappelez-vous votre professeur de biologie, quand il vous expliquait la science. Comment vous essayez de comprendre ce qu'il vous expliquait. Le scientifique, lorsqu'il va être amené à parler à la télévision ou à la radio, va essayer d'expliquer ses théories pour les mettre au niveau des auditeurs. Il vous est certainement déjà arrivé d'écouter France Inter à 14h, la tête au carré, ou de tomber sur le journal de France 2 à 20h, où vous avez là M. Dupont, spécialiste en biologie moléculaire, qui va vous parler du virus H5N1. Alors, j'ai pas, hein, mais M. Dupont, s'il est scientifique, il a une blouse blanche. Okay, là, ça cadre bien, il est dans un labo et il vous explique des choses. Seulement, voilà, vous, moi, pareil, nous ne sommes pas scientifiques. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que M. Dupont nous raconte. Oui, le virus H5N1 dérive d'une souche particulière de blablabla. Sauf que le scientifique va employer des termes un petit peu compliqués. Quelle est la spécificité du discours scientifique? C'est justement celle-ci, employer des concepts précis, employer des mots précis. Pourquoi? C'est encore une devinette, c'est une simple question. Pourquoi un scientifique utilise-t-il des concepts? S'il vous plaît. C'est peut-être une question. Et ça n'est pas un piège. Une fois. Oui. Pour étayer son argumentation. Il pourrait tout à fait étayer son argumentation avec du langage courant. Pourquoi a-t-il besoin de créer parfois des mots compliqués? Forclusion du nom du père. Ah, celui-là, vous le connaissez. Non, mais je ne sais pas, n'importe quoi. Plus simple, masse, gravité, poids, force. Pour montrer sa légitimité. Vous savez, une blouse blanche, un petit crayon dans la poche, je me présente, professeur machin, j'ai montré ma légitimité. Hein. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce qu'il dit. Si le scientifique, vous avez tout à fait raison, utilise des concepts, ça n'est pas pour vous embêter, ça n'est pas pour se prendre la tête. C'est simplement parce que le langage courant, le langage de la vie de tous les jours est polysémique. Il y a plein de sens. Donc le scientifique va créer des concepts extrêmement précis pour qu'un scientifique qui parle à New York, à Singapour ou à Rennes parle de la même chose, avec les mêmes mots, les mêmes concepts. OK ? Le scientifique, bien souvent, utilise des concepts abstraits. Alors, quand je parle de scientifique, c'est de manière générale. Hein. Prenons les philosophes. Ils vont travailler sur la justice, la liberté, la culture, l'égalité. OK, allez-y, montrez-moi. Vous avez déjà vu la justice ? Vous avez vu de la justice qui vole quelque part? C'est un concept abstrait. 2x égale 6, x. Demandez ça à un petit enfant. Il a 3 ans. 2x égale 6, x. OK, va dans ta chambre. C'est un concept abstrait, c'est très compliqué. Nous avons besoin, vous, moi, tout le monde, nous avons besoin de mettre des images sur ces concepts abstraits. Nous avons besoin de rendre concret ce qui est abstrait. Et lorsque le scientifique va venir à la télévision pour essayer de présenter sa théorie, vous, moi, les téléspectateurs, nous allons essayer de la comprendre. Et pour la comprendre, nous allons mettre des images. Nous allons transformer un concept abstrait en une image. Je vais vous donner un exemple sur la biologie. Et alors là, je sais que vous allez m'en vouloir, parce que je vais vous donner un exemple avec une chanson qui va vous trotter dans la tête jusqu'à ce soir. Bon, j'ai bien réfléchi à mon exemple, hein. D'un côté, vous allez m'en vouloir, c'est dommage pour moi. De l'autre côté, vous allez penser à mon cours jusqu'à temps que vous allez vous coucher. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, je me dis que ça peut être pas mal finalement. Je vais vous montrer un générique de dessin animé. Parce que dans le dessin animé, c'est le meilleur lieu où on peut rendre concret ce qui est abstrait. Alors puisqu'on parlait de biologie... Oh non, eh, il va pas nous le faire. Eh si. Non, il va pas oser. Eh si. Il n'est pas capable. Ne me poussez pas. Chut, chut, chut. Attention, attention. Ceci n'est pas un karaoké. Ne chantez pas pendant la chanson. Mais observez bien. Ce que je vais vous demander, c'est de regarder toutes les transformations concrètes d'éléments qui sont scientifiquement abstraits. On regarde. Je suis vraiment désolé pour mon professeur de biologie au collège, mais moi, ça m'a beaucoup plus marqué qu'à peu près tous ces cours. Comment on représente de manière concrète ce qui est abstrait ? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à l'oxygène ? Ça ressemble à quoi, l'oxygène ? On ne le voit pas. Comment c'est représenté ici ? Des petits bonshommes bleus, des bulles bleues, transparentes. Si on avait mis des triangles rouges avec des taches oranges, ça vous aurait fait penser à l'oxygène ? Non. Or, vous avez tout de suite tous compris que c'était de l'oxygène. Puis la personne respire cet oxygène. Ça passe par le nez. Ça sert à quoi, le nez ? À filtrer l'oxygène. Si ça filtre, c'est une station de lavage. Puis ensuite, on voit les globules rouges. Alors là, ce qui est intéressant, il y a un élément peut-être que vous avez noté. C'est un élément qui se base sur une connaissance scientifique. Les globules rouges, lorsqu'ils libèrent le CO2 et récupèrent de l'oxygène, que se passe-t-il ? Oui, je l'ai entendu. Ils changent de couleur. Ils étaient foncés, ils deviennent beaucoup plus clairs. Effectivement, du sang chargé de CO2 est plus foncé que du sang chargé d'oxygène. Et là, on le voit très concrètement, visuellement. Et nous voyons nos petits globules rouges qui sont contents de se débarrasser du CO2 et de l'oxygène. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça ? Est-ce que le globule rouge est heureux ? Visiblement, oui. Alors, allons plus loin dans ce dessin animé. On a appliqué au fonctionnement du corps humain le fonctionnement de la société. Donnez-moi un exemple. Pardon ? Oui, la communication, mais un fonctionnement de la société elle-même. La police. Un corps humain, c'est comme une société. Quand elle est agressée, il y a des anticorps. Les anticorps, c'est la police de proximité. C'est la police. Pas de polémique. Les anticorps, c'est la police qui sont dans le corps. Vous avez vu ? Avec leur matraque. Sauf que parfois, l'anticorps ne suffit pas. Dans ces cas-là, on fait appel à quoi? On fait appel au GIGN. On fait appel aux super gendarmes. On fait appel à des vaccins. Les vaccins, c'est les deux petits vaisseaux qui arrivent. Et on remercie quand les vaccins ont libéré d'autres anticorps pour se débarrasser des méchants virus. Vous avez remarqué qu'on les remercie. Autre élément intéressant, les virus, quelle tête ont-ils? Ils sont méchants, ils ne sont pas beaux. Est-ce que vous êtes déjà demandé si un virus était méchant ou pas beau? Est-ce qu'un virus, à votre avis, se pose la question « Ah, je sais que je ne suis pas sympa, mais il faut que je fasse mon boulot ». On voit là aussi projeter notre imagination du fonctionnement d'un corps, de la société. Donc vous voyez comment les concepts abstraits sont transformés en concepts concrets qui vont nous marquer beaucoup plus. Si vous montrez ça à un biologiste, il va avoir une crise cardiaque. Il n'empêche que moi, j'ai compris plein de trucs juste avec les petits globules rouges qui se baladent. Parce que j'ai mis des images sur des choses abstraites. Cette pensée de sens commun, elle est caractérisée du côté positif, en quelque sorte, par le fait qu'elle est axée sur la communication. Cette pensée de sens commun, je vous le disais, c'est avant que mon cours commence, vous allez discuter les uns avec les autres. Elle se construit dans un échange, dans un dialogue, dans une interaction. Et elle est marquée par la controverse. De la pensée de sens commun, c'est une pensée essentiellement marquée par la controverse. Vous n'êtes pas d'accord. Bon, ok, sur « il était une fois la vie », je ne suis pas sûr qu'il y ait une discussion avec une controverse, il n'y a pas les pour, les contre, ça ne va pas durer. Mais si je prends à peu près les mêmes mots, si je donne un autre titre, genre, non pas « il était une fois la vie », mais « plus belle la vie ». Ah, tiens, déjà, là, oh, j'entends des réactions. Donc là, déjà, on peut avoir une controverse. Ceux qui ne regardent pas parce qu'ils n'aiment pas, ceux qui disent qu'ils ne regardent pas mais qui regardent, ceux qui regardent et qui le disent. Vous voyez, là, on a cet objet de controverse. Et puis, du côté négatif, cette pensée de sens commun, en quelque sorte, elle est le lieu de l'absence, pardon, de neutralité. On va s'écharper, on a un avis, on a une opinion. Il n'y a aucune distance, il n'y a pas de distance par rapport à soi ou à l'autre. Et il n'y a aucun travail réflexif. On veut persuader l'autre, on a raison. Le problème, c'est que si on est deux à discuter, chacun a raison. Alors vous comprenez bien que si chacun pense qu'il a raison, la discussion, le ton de la discussion peut être assez véhément. Pas de distance, pas de réflexion. Ce sens commun, cette pensée de sens commun, s'inscrit de manière plus large dans ce que l'on qualifie, dans ce que l'on appelle la pensée naturelle. Grand 3, la pensée naturelle. Oui, il y avait 5 points, je suis déjà au grand 3. Mais je vais être plus long sur le reste, rassurez-vous. Grand 3, la pensée naturelle. À la fin du 19e siècle, en Europe, en France en particulier, il était convenu de parler d'une pensée naturelle en la réduisant à la pensée de l'enfant, du primitif, avec des guillemets, ou du sauvage, toujours avec des guillemets, ou du malade mental, du fou. C'est-à-dire qu'on considérait à cette époque-là que ces trois types de personnalités, permettez-moi l'expression, avaient une pensée différente. Ce n'était pas une pensée scientifique, ce n'était pas une pensée rationnelle. C'était une pensée autre. Prenez l'exemple de l'enfant. Ok, je vous laisse finir de noter la phrase parce que j'ai noté déjà dans le groupe précédent un phénomène extrêmement intéressant. Le fait d'écrire une phrase empêche les personnes d'entendre. Je ne sais pas si ça a déjà été étudié, mais je vais en parler à mes collègues. Ça y est, c'est bon? Donc, prenons l'exemple de l'enfant. Il y a quelques semaines, c'était quoi? Non, pas les révisions. C'était les vacances. C'était les vacances de Noël. Et alors, prenons l'exemple d'un petit garçon de 4 ans, le 24 au soir. Qu'est-ce qu'il attend? le Père Noël. Il attend le Père Noël. Et il y croit, son Père Noël. La meilleure preuve de l'existence du Père Noël pour ce petit garçon de 4 ans, c'est quoi? C'est que le 25 au matin, il y a des cadeaux. Et attention, les cadeaux de la liste. Parce que le petit garçon, il a été sage et le Père Noël, il a pris la liste. Donc pour le petit garçon, le Père Noël, il existe. Mais vous voyez bien que si vous avez un discours rationnel, scientifique, vous allez lui dire quoi au petit garçon? Écoute, mon petit, un vieux monsieur qui se balade en robe rouge la nuit, c'est un travesti, un pédophile ou c'est quelqu'un qui atteint de la maladie d'Alzheimer. En tout cas, tu vas te coucher et tu arrêtes de croire dans ces balivernes. Au lit. Vous lui racontez ça, petit garçon? Non, vous allez lui donner un discours plus scientifique. Écoute, mon petit, le pays est en crise. Le monde est en crise. Le pétrole coûte extrêmement cher. Peux-tu imaginer un instant qu'un homme soit capable, avec un traîneau, même avec des rennes, mais il bouffe de l'herbe et l'herbe, c'est pas donné, de faire tout le tour de la planète en une seule nuit? Va dans ta chambre, va te coucher. Vous ne lui dites pas ça, parce que le petit garçon de 4 ans, ça marche aussi avec une petite fille, hein, le petit garçon de 4 ans, lui, il y croit dans le Père Noël. Et il sait que ça existe, parce qu'il y a les cadeaux. C'est une pensée dite naturelle. Autre exemple, le primitif, le sauvage, celui qui croit dans plusieurs dieux, dans la réincarnation, dans les objets. Non, ne t'assois pas là. Oh non, prenez pas cette prise, vous vous rendez pas compte, c'est le dieu des prises. Vous allez offenser le dieu des prises, vous allez devoir faire une offrande. Pour la prochaine fois, vous n'oubliez pas, il faudra faire une offrande au dieu des prises. C'est moi qui vous me la donnez directement, je transmettrai. Donc, ça, c'est de la pensée aussi du primitif, du sauvage, le malade mental. Prenez un exemple. Celui qui va se croire, se prendre pour un chef d'État, un petit chef d'État tout énervé qui veut faire plein de lois et révolutionner Napoléon. Hein. Okay. Donc celui qui se prend pour Napoléon, vous croyez quoi? Ben, il se croit vraiment pour Napoléon. Parfois, je prends un exemple moins hypothétique, mais il nous est arrivé, je donnais l'exemple tout à l'heure, d'avoir un étudiant qui vient pour nous remettre un document. Il dit « je ne voulais pas envoyer par mail ». C'est pas grave, hein, donnez, posez-le sur le bureau. Non. Ah bon? Non, je ne veux pas l'envoyer par mail parce que on lit mes messages. Ouais, c'est pas grave. Non, je sais, je suis suivi. Ok. Vous pouvez me corriger, puis vous me le donnez tout de suite. Je ne veux pas vous le laisser. Là, vous vous sentez seul et vous regardez s'il n'y a pas un de vos collègues de psychoclinique qui passe dans le couloir. Genre, hop, ça peut-être bien, viens m'aider, c'est pour toi celui-là. La personne qui vous raconte ça, qui est paranoïaque, vous diriez, mais parce que vous, vous êtes des scientifiques, vous avez des mots. Moi, je la trouve folle. Je ne suis pas scientifique. Mais cette personne-là, elle a une pensée que l'on a caractérisée pendant très longtemps comme relevant de la pensée naturelle. Une pensée auquel on ne devait pas s'intéresser. Est-ce que vous allez essayer de persuader le petit garçon que le Père Noël existe? Non. Ouais, ok, mais vas-y, crois, puis un jour, tu n'y croiras plus, puis on n'en parlera plus. Quelles sont les caractéristiques de cette pensée naturelle? Valérias, en 1999, relève 4 caractéristiques de la pensée naturelle. La première de ces caractéristiques, c'est que cette pensée naturelle se fonde sur l'expérience sensible. Ça veut dire quoi, l'expérience sensible? Ok, notez la phrase, se fonde sur l'expérience sensible. Un petit trait, je surligne. Je pose mon stylo, je relève la tête, je lis la phrase, je comprends la phrase. Il a posé une question, il est en train de meubler, il faut peut-être y répondre. Oui, c'est ce que l'on perçoit, c'est ce qui relève de nos sens directs. Ce que l'on touche, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Cette pensée naturelle se fonde sur ces sens-là. L'exemple que donne Haas dans son chapitre, c'est celui de la différence entre le poids et la masse. Vous vous rappelez de vos cours de physique? Vous savez ce que c'est que le poids et la masse? Vous savez la différence qui existe entre le poids et la masse? Oui? Le poids, c'est la masse par la gravité. C'est possible. Non, maintenant, je dis que c'est possible parce que la dernière fois que j'ai donné cet exemple, je me suis trompé. Il y a un étudiant qui m'a fait remarquer que je m'étais trompé. Alors, pour éviter de passer pour un imbécile 2 fois de suite... Maintenant, pour moi, c'est trop compliqué. Je ne sais pas. Franchement, le poids et la masse, je sais bien, j'ai bien compris qu'il y avait cette histoire de gravité. mais je ne sais pas la différence. Moi, tout ce que je sais, comme vous, c'est ça. C'est ce que je ressens, là. C'est que c'est lourd. Enfin, non, là, c'est pas lourd. Ça pourrait être lourd. Et pour moi, c'est ça. Le poids ou la masse, c'est ça. C'est cette chaise, c'est ce que je ressens. Si quelqu'un me dit, tiens, Sylvain, tu peux m'aider à porter le carton ? Ouais, il y a quoi dedans ? Quand je lui demande, il y a quoi dedans ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Est-ce que c'est de me dire, oui, alors t'inquiète pas, si on multiplie par la gravité, c'est vrai que si on était sur la Lune, Sylvain, ça n'est pas lourd. Je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est est-ce que je vais avoir mal au dos quand je vais porter son carton ? Donc, vous voyez bien qu'un scientifique qui, lui, va faire une différence ne raisonne pas de la même manière. On se fonde sur l'expérience sensible. Deuxième caractéristique, nous dit Valérie Haas, c'est qu'elle se manifeste dans la communication sociale. La pensée naturelle, sociale, on verra tout à l'heure, se manifeste, s'exprime. J'ai cliqué ? Non, attendez. On va y arriver. OK. Elle se manifeste dans la communication sociale. Si vous voulez accéder au discours scientifique, où allez-vous chercher ? Dans des livres ? Plus précisément, vous pouvez aller dans des revues scientifiques ou dans des colloques scientifiques. Vous allez entendre des scientifiques parler. Vous allez avoir accès au discours scientifique. Maintenant, si vous voulez avoir accès à la pensée naturelle, où allez-vous aller ? Enfin, ne bougez pas, c'est... Là. Moi, je vais aller là, tout à l'heure, dans 12 minutes, quand nous ferons la pause. La pensée naturelle, elle va avoir lieu où ? Devant l'amphi. Parce que va-t-il se passer à la pause ? Qu'allez-vous faire ? Plusieurs possibilités. Vous allez sortir et immédiatement, vous allez aller discuter du cours. Oh, mais particulièrement intéressant. Je me demande quand même, quand il parle de Durkheim, parce que dans les règles de la méthode sociologique, à partir du chapitre 3, j'ai un petit doute. Vous allez faire ça ? Non. Est-ce que vous allez aller discuter des problèmes géostratégiques aujourd'hui en Syrie ? Moi, je trouve bien qu'on ait ces petites pauses pour pouvoir évoquer les problèmes du monde. Non, vous allez faire quoi ? Vous allez aller fumer, d'accord ? Et vous allez aller discuter. Discuter de quoi ? Du cours, par exemple. Oh putain, il était une fois la vie. Non, mais franchement, on est en L3, ça va. Quand on n'est plus en L1, ça va. Et monte le niveau. Bon. Ou alors, vous allez parler de ce que vous allez faire ce soir. Tiens, on pourrait aller au ciné. Ouais, mais il y a quoi qui passe en ce moment ? Oh, il y a ça. Non, je l'ai vu, c'est nul. Oh, puis il y a ça. Oh non, je sais pas. On pourrait aller boire un verre. Ah, oh, on va boire un. Et tu viens boire un verre ? En gros, vous allez évoquer tous ces sujets-là totalement inintéressants dont je parlais tout à l'heure. Cette pensée naturelle va se manifester dans la communication sociale, dans l'interaction entre vous, mais aussi dans la presse, à la télévision, à la radio, dans les journaux. Quand vous ouvrez votre journal favori ou quand le matin vous sortez du métro et que vous prenez 20 minutes et que vous allez passer en revue, enfin d'ailleurs généralement vous commencez par la fin, mais que vous passez en revue tous les grands sujets de société, c'est là où cette pensée va s'élaborer, va se manifester. Troisième caractéristique, elle s'exprime à travers le langage de tous les jours. Elle s'exprime à travers le langage de tous les jours. Vous avez déjà lu des articles scientifiques ? Oui. Vous avez déjà lu des articles de chimie ? Non ? Bon, alors, je vais vous dire, moi, le dernier article de chimie que j'ai lu, donc c'est un article scientifique, c'était comme ça, il y avait méthodologie. Méthodologie. Bon, alors, c'est le scientifique qui parle. Bon, alors, j'ai pris le flacon qui était à ma gauche. Il y avait du liquide rouge dedans et je l'ai mélangé dans le flacon qui était à ma droite, là, qui était vert sur la deuxième étagère. J'en ai mis, à la louche, hein, deux bons doigts. Okay. J'ai un peu touillé. Là, j'ai eu une envie pressante. Alors, j'ai posé le truc, je suis allé faire pipi, je suis revenu, j'ai retouillé. Et là, il y a de la fumée grise, blanc-gris, mais blanc-gris, qui est sortie. Voilà, je crois que j'ai découvert un nouveau truc. Quand on met le liquide de gauche avec le liquide de droite là et qu'on mélange, ça fait de la fumée. Ça, c'est un discours scientifique ? Non. Parce que là, le scientifique utilise du langage de la vie de tous les jours. C'est votre discours à vous. Le scientifique va parler de solutions aqueuses, va parler de millilitres, va être précis. Mais vous, dans la vie de tous les jours, vous employez les mots de la vie de tous les jours. Quand vous êtes en train de déjeuner, c'est l'exemple que As reprend. Que demandez-vous quand vous êtes à table et qu'il manque quelque chose? T'as du sel, s'il te plaît? Est-ce que vous allez dire, cher ami, imaginons vous êtes aux rues, cher ami, pourriez-vous, s'il vous plaît, me transmettre 12 grammes de NaCl qui se trouve actuellement dans le petit... Non, passe-moi le sel. Vous n'êtes pas chimiste, donc ça ne sert à rien d'employer la formule chimique. Vous employez le vrai mot. Et la pensée naturelle se manifeste, s'exprime à travers ce langage de la vie de tous les jours. Quatrième et dernière caractéristique, c'est le fait qu'elle satisfait à une logique qui ne répond pas au canon de la logique formelle. Donc la pensée naturelle satisfait à une logique qui ne répond pas au canon de la logique formelle. Ce qui m'intéresse ici, moi, ce n'est pas la fin de la phrase. Ce n'est pas que ça ne réponde pas au canon de la logique formelle. Ce qui m'intéresse, c'est que la pensée naturelle satisfait à une logique. Ce n'est pas illogique. Ce n'est pas irrationnel. Il y a une logique propre. Quand vous écoutez le petit garçon ou quand vous écoutez le paranoïaque qui vous parle du fait qu'il est suivi, quand vous écoutez le petit garçon qui vous parle du Père Noël, ça n'est pas illogique ce qu'il vous raconte. Ça satisfait à une logique, qui est une logique autre de la logique rationnelle. Prenons un exemple, celui des rumeurs. Une rumeur, c'est quoi une rumeur? Vous connaissez des rumeurs? Ah, merci, il y a au moins une personne qui connaît des rumeurs, tous les autres, vous n'avez jamais entendu parler de rumeurs. Bon, une rumeur, grosso modo, on fera le cours numéro 3 sur les rumeurs. C'est une information qui va se transmettre de bouche à oreille, une information qui va se déformer, se transformer, une information qui peut être vraie ou fausse. OK. Prenons l'exemple d'une rumeur. Chut, je vous dis ça entre vous et moi, hein, ça ne sort pas d'ici. Il paraît que l'année dernière, dans ce cours, hein, en psycho L3, là, je connais un peu les profs, mais il paraît que les profs, en fait, ils n'ont pas le temps de corriger les dossiers, il y a plein de trucs, ça les embête, c'est écrit tout petit. Ils ont mis 16 à tout le monde. Bon, et je vous ai rien dit, hein, d'accord, okay. Bon, on va faire la pause. OK, imaginons, on fait la pause, vous sortez. Là, vous allez recroiser un camarade. Vous savez, celui du début, le réveil. Oui, parce que là, hier, c'était super, donc il se réveille juste. Donc, vous croisez votre camarade, là, qui arrive un peu en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pff, rien, il était une fois la vie, t'inquiète, t'as rien loupé. Ah ouais, bon, ah si, t'as loupé un truc. L'évaluation, c'est pas un examen sur table. Ouais, chouette, c'est un dossier. Oh non, t'inquiète, le prof, il a dit que l'année dernière, tout le monde a eu 16, les profs, ils lisent pas, ils ont pas que ça à faire, ils aiment pas les étudiants, ils mettent 16 à tout le monde. Ah ouais, c'est cool. Ah bah tiens, on recommence, tu viens en cours? Non, je vais boire un café. Notre étudiant, il va boire un café à Erev. Et là, il rencontre d'autres étudiants en psycho. Il leur dit quoi? Eh, vous savez quoi? Il paraît qu'en psycho, tous les profs en psycho, ils lisent pas les copies, ils mettent des notes au hasard. Non, c'est pas vrai. Si, si, ils mettent des bonnes notes, hein, plutôt 16. Ah ouais! Là, on a une rumeur, vous voyez, elle se déforme, elle se transforme. Elle va continuer. Pourquoi? Parce que le groupe-là, c'est pas illogique qu'elle se diffuse. Si je vous raconte ça, je vous ai raconté plein de choses depuis le début. Mais si vous ne retenez que ça de mon cours, s'il vous plaît, non. Si vous ne retenez que ça de mon cours, c'est parce que pour vous, il y a un intérêt. Ça répond à l'identité sociale de votre groupe. Il y a un intérêt identitaire. Maintenant, vous rentrez chez vous ce week-end et vous racontez, je ne sais pas, à n'importe qui, à votre père, qui vous demande, comme tous les week-ends, comment s'est passé vos cours, hein, parce que même en licence 3, vous lui faites un compte-rendu spécifique. Donc, vous êtes en train de lui expliquer comment s'est passé votre cours. Et là, vous lui dites, ah, et le prof nous a dit qu'à Rennes 2, ils mettent tous, de toute façon, 16 parce qu'ils ne lisent pas les copies. Bon, OK, votre père écoute, il est poli. Le lendemain, il va faire les courses, il va au marché. Pensez-vous qu'au poissonnier, à la boulangère, à je ne sais pas qui, il va leur dire, vous savez pas, à Rennes 2, les profs, non, il n'en a rien à faire. Enfin, il s'intéresse beaucoup à vos études, hein, c'est chouette, ça, c'est bien. Mais votre père, il ne s'intéresse pas à cette rumeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une rumeur qui va être diffusée dans un cas, transmise par vous parce que vous êtes des étudiants, et qui, dans l'autre cas, ne va pas être diffusée. Donc, vous voyez là le caractère logique. Ce n'est pas de la logique rationnelle. Évidemment qu'on vous notera très durement. Faites bien attention. Mais vous, vous allez la diffuser, cette rumeur, quand votre père, par exemple, ne va pas la diffuser. C'est clair ? Je vous propose que nous fassions une pause de 5 minutes et nous reprendrons sur le point 4, la pensée sociale. 5 minutes vraiment, puisque le cours est en retransmission directe. Dans 5 minutes...